Bienvenue dans Entre deux notes, l'espace où on parle musique sans posture et sans bullshit. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode après 2 mois de pause. Et aujourd'hui, on accueille un invité de marque, Alex Heider. Salut Alex Heider.
Salut PK, merci beaucoup pour l'invitation, très content d'être ici.
Très content de t'avoir ici. Tu es membre du collectif Music We Trust, qu'on a fondé avec Linvi, Osinji et puis Ace Keno il y a maintenant plus d'un an. Voilà, pour être honnête, on fête les 1 an du collectif.
Joyeux anniversaire.
Merci. Merci aux autres aussi. Et donc, tu es un producteur passionné, curieux des sons, des outils modernes. Tu partages un parcours sincère entre apprentissage, expérimentation, remise en question permanente. Ça te décrit bien ?
Oui, exactement. Donc, je m'appelle, comme tu m'as présenté, Alex Heider. Voilà, je suis producteur, compositeur et DJ originaire d'Avignon. Et en fait, la musique est rentrée très tôt dans ma vie. J'ai reçu de mes parents une éducation musicale en me faisant découvrir divers styles de musique. Et je dirais que mon engouement, tu vois, pour les sons électro vient de mon père qui écoutait beaucoup du Jean-Michel Jarre et du Vangelis. Mais aussi pianoter sur son synthé, tu vois. Et tu sais ce qu'on dit, les enfants ont tendance à imiter leurs parents. Donc, moi, ça a été le cas avec le synthé de mon père où j'ai commencé à pianoter vers l'âge de 7-8 ans, quoi.
Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors moi, j'avais aussi pas mal écouté du Vangelis, un peu moins du Jean-Michel Jarre. Voilà, c'était pas ma cam. Oui. Vangelis, pour tout ce qui est BO de film, etc., c'était vraiment quelque chose qui me parlait, quoi. Voilà. Comment imiter des instruments de musique de façon électronique, quoi. C'était un peu son style, quoi. Très bien. Donc, tu faisais du piano, ou alors du synthé, quoi. C'est ça?
Oui, plus du synthé, quoi.
Et ensuite, tu es passé par un groupe de rock, hein. C'est ça qui...
Ouais. C'était au collège avec des amis. Bon, on a fait ça pour s'amuser. Donc, c'était sympa. On reprenait un peu les classiques d'ACDC, Van Halen.
Voilà. Trop bien. Alors, mon expérience, c'était que j'étais aussi dans un groupe un peu de trip-hop. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se vautrer dans sa ligne. Je faisais aussi du piano accompagnement. Sachant que t'as des autres, en fait, le public n'écoute pas que toi, il écoute aussi le reste du groupe. Alors que si t'es tout seul sur scène, alors j'ai pas eu encore l'expérience d'être seul sur scène, d'être DJ ou quoi que ce soit. Donc je me dis, c'est le jour où je me plante seul sur scène, en fait, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Et en plus, il y aura que moi qui serais, le seul coupable sur scène, quoi, on va dire. Je sais pas comment gérer ça, quoi. Mais disons que c'est plus facile dans un groupe. Voilà, c'était l'idée.
Ouais, la différence, oui, comme tu expliques, dans un groupe, bon, vous êtes plusieurs, donc si toi tu fais un petit truc, bon, l'autre il peut le couvrir avec la guitare ou la batterie. Mais quand tu fais une presta, si ça foire, soit tu te dis, les gens, ils entendent pas, donc je continue comme si de rien n'était. En fait, faut continuer comme si de rien n'était, tu vois. Si vraiment, par contre, t'as le matos qui tombe en rade, le temps de le redémarrer et tout, au moins, si t'as le micro qui marche, tu motives un peu les troupes, quoi.
Clairement. Voilà. Alors, on a déjà parlé de DJing. Alors, avant ça, tu as eu premier contact avec la MAO, musique assistée par ordinateur, avec un joli logiciel qu'on appelait Fruity Loops, hein, c'est juste?
Oh oui, ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, FL Studio. Donc c'était, on l'a fait, je pense, j'ai fait le parcours un peu comme tous qui ont découvert la MAO. C'est, tu télécharges le programme qui est, on va dire, un peu la démo gratuite.
Ouais.
Tu commences un peu à le bidouiller, à te familiariser avec l'environnement. Et puis ensuite, évidemment, le problème, c'est que tu peux ni sauvegarder. Et je crois qu'on pouvait exporter, mais on pouvait pas sauvegarder. Donc voilà, c'est, oui, à vrai dire, c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir un peu le premier contact.
Tu es toujours encore sur FL Studio?
Non. Depuis quelques années maintenant, j'ai switché, je suis passé sur Ableton Live.
Ableton.
Voilà. Juste une question de feeling, c'est que à force d'utiliser FL Studio, je me suis senti un petit peu limité par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à certains trucs. Et c'est pour ça que j'ai commencé un peu à tester d'autres logiciels. Et du coup, j'ai trouvé que Live, ça répondait parfaitement à mes attentes et surtout à mon travail. Donc ouais, le DJing, voilà, maintenant
du coup le DJing, tu l'as fait sur quoi, quoi comme type de matériel, du full physique, ou tu me parlais de CD avant, t'es passé par MP3, t'es passé par
alors pour le DJing, tu vois, c'est moi je suis plus la génération qui a connu le CD, tu vois, évidemment, mais donc j'ai commencé par le CD, et le premier matériel DJ que je me suis acheté avec mes économies, j'avais 13 ans, et c'était un combo, alors je me souviens exactement de tout le matériel que j'ai acheté, même que j'ai upgrade au fil des années, et à l'époque c'était un combo CD qui était un Omnitronic, je crois c'est un CDP 385, donc si tu vas voir sur internet le truc, c'est vraiment le basique de chez basique, mais tu vois, pour surtout faire des enchaînements, des trucs, donc il y avait même pas le BPM, il y avait le pourcentage, donc en fait je faisais travailler aussi l'oreille musicale, et mais bon, après celui-ci il est tombé en fait rapidement en panne, et donc du coup le vendeur me l'a remplacé par un autre combo qui cette fois était un boost, qui lui a duré pas mal de temps, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, eh bien, j'ai commencé à me perfectionner, et puis à upgrade le matériel, et puis à commencer à faire des événements privés, quoi.
Ok. C'est chouette, ça. Et donc, par la suite, tu sais, plus ou moins, ou en tout cas, tu t'es monté en compétence dans tout ce qui est composition musicale. Tu sais jouer en live, des instruments, en gros, du piano, et tu sais aussi faire le DJ, en gros. Donc, tu sais un peu aussi qu'est-ce qui peut marcher sur une platine et qu'est-ce qui peut marcher devant un public, on va dire. Donc, tu t'es mis par la suite au remix, c'est juste ?
Ouais, c'est ça. Le remix, alors avant tout, le remix pour déjà, comme je te disais, me familiariser avec la MAO. Je veux dire, je trouve que c'est un excellent apprentissage. Okay. Et pour comprendre un peu les techniques, les process de production. Et donc, ça a été pour moi, ça a été un très très bon entraînement, le remix.
Ouais, tu as eu un premier succès avec un remix d'un générique de dessin animé, c'est juste?
C'est le générique d'un célèbre dessin animé qui s'appelle Miraculous Ladybug, et qui est un dessin animé français. Et en fait, j'aimais bien le générique, la musique du générique, et je me suis dit, ça serait marrant de faire un remix un peu dance, un peu électro, quoi, tu vois, électro-friendly. Et donc, je l'ai publié sur YouTube, tu vois, comme ça, sans prétention, quoi.
400 000 personnes l'ont apprécié, voilà.
Voilà, en tout cas, voilà, et à ma grande surprise, ouais. Voilà. C'est ça.
joli succès, en tout cas. Et donc, tu continues un petit peu assez régulièrement des remixes, mais tu as aussi, par la suite, sorti ton premier single, voire même plusieurs. Donc, le premier, c'était Cheat Code, et ensuite, tu as été pris sous un label, c'est ça ?
C'est ça. Alors comme tu l'as si bien dit, Cheat Code, qui était un track en indépendant, que j'ai publié en indépendant, donc c'était vraiment pour me familiariser un peu avec tout ça, avec les modes de distribution, et ensuite après, oui, ça a été le label, ça a été un label, Joe Manzik, sur lequel j'ai signé deux tracks, qui est Parasite et Sakura. Donc ça a été un peu une bonne expérience aussi, quoi.
Ok, ouais, c'est bien ça. Donc quelle est la différence pour toi entre le côté indépendant et le côté label? Le label t'a bien aidé?
Oui, si tu veux, la différence, c'est que quand tu publies les trucs en indépendant, c'est toi qui dois tout faire pratiquement, la promo, la mise en avant sur les réseaux sociaux, préparer les faire ta pub, quoi, en quelque sorte, c'est tu te rajoutes ce travail là le label, bon, c'est sûr que le label il t'allège un petit peu cette charge là toi tu fournis le track, si eux ils aiment, bon, c'est une façon très simpliste, tu vois, d'expliquer la chose, mais c'est beaucoup plus dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe, mais justement, toi tu fais le track, tu leur fournis, si eux ils aiment et qu'ils veulent te signer, ils te signent, et après tu t'arranges, et après ils te donnent le contrat, tu vois, avec eux. Et puis, tu sais que pour ce qui est un peu la partie promote, c'est plus eux qui vont s'en occuper. Bon, toi aussi, tu as ta charge de travail à faire. Je veux dire, c'est pas, j'envoie mon track au label et le label, ah hop, il fait tout, moi, je me tourne les pouces. Non, 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 il faut aussi mettre un peu du sien. Mais la charge de travail, je dirais, est un petit peu moindre. de mon expérience. Voilà.
C'est noté. Alors moi, je suis encore en indépendance 100% depuis 2 ans. Donc, alors, je délègue. Hein, je commence à fonder ma propre petite équipe, on va dire, avec une personne qui s'occupe de ma promo, une personne qui s'occupe de mes visuels et moi qui m'occupe de la musique, quoi.
Donc, ouais, voilà. Bah, encore, toi, ça va. T'arrives à déléguer quand tu dois faire plusieurs trucs en même temps. T'as la tête, au bout d'un moment, tu finis un peu par saturer, quoi. Te dire, oh là, il faut que je fasse ça, il faut imaginer ça. Attends, quelle est l'idée pour le visuel?
Effectivement, donc, ouais. Après, ouais, moi, l'avantage, c'est que je garde un peu le contrôle artistique. Alors, je sais pas si toi, le label t'a demandé de changer quelque chose au niveau artistique chez toi, ou t'as demandé quelque chose?
Non, franchement, ils étaient
plus ou moins libres, quoi.
Ouais, ils m'ont laissé. Ouais, et franchement, niveau liberté, c'était top. Même d'ailleurs, si tu veux, pour l'anecdote sur Parasite, j'avais pas trop d'idées, donc c'est eux qui l'ont trouvé. Et finalement, quand ils me l'ont montré, je dis ouais, ça résume bien le truc sur le visuel. Par contre, tu vois, pour Sakura, là-dessus, c'est moi qui leur ai proposé le visuel, parce qu'en fait, j'avais une idée précise, tu vois, un visuel précis, et donc je leur ai soumis et ils ont accepté. Donc du coup voilà. Donc j'ai considéré, tu vois, ce travail-là comme un travail d'équipe entre moi et Joe Monzik. Et là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Je veux dire, ils sont, c'était cool, quoi.
Bah, avec eux. Merci pour ce retour d'expérience. Nous, effectivement, quand on avait fondé le collectif, donc au tout début, on avait d'ailleurs fait le tout premier épisode de podcast, on avait parlé un peu des structures d'artistes. Et c'est là où on était parti sur l'idée de fonder un collectif, parce qu'on n'était pas ultra persuadé que le label avait encore un très grand intérêt, en tout cas, surtout les labels un peu d'indépendants comme pour nous, qui étaient débutants, etc. Parce que finalement, ils te prennent une partie de tes revenus, et derrière, ça tend quand même à ce que tu sois déjà une micro-célébrité, quoi. Ou que tu aies déjà une présence sur les réseaux sociaux, comme toi, par exemple, tu as eu tes 400 000 vues sur ta vidéo, donc tu as pu déjà montrer quelque chose, comme quoi ta musique pouvait susciter un intérêt. Et c'est normal, un label ne veut pas s'engager.
Ouais, après, voilà. Après je vais peut-être apporter un élément de plus. Le truc, c'est que, honnêtement, malgré peut-être que j'ai fait 400 000 vues sur ce remix-là, sur YouTube, c'est pas pour autant que j'ai réussi à proposer des tracks, enfin, à être accepté, est-ce que mon track soit accepté peut-être avec à d'autres labels, ou peut-être même à débloquer des bookings par-ci par-là, quoi, tu vois, parce que, si tu veux, moi c'est un constat que j'ai fait, et je pense que je suis pas le seul à le voir, qu'aujourd'hui, que ça soit un label ou un orga, a tendance à regarder plus le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux que, je dirais, le talent, parce que eux ils sont dans l'idée que un tel, il a 10 000 abonnés, donc ça veut dire que si on le book, il va forcément ramener des gens, donc du coup ça va faire un peu des rentrées d'argent, tu vois, c'est un peu terrible, tu vois, ce genre de discours, mais c'est la réalité. C'est, je pense, la réalité, et ça donne, je pense, peut-être, ça cause du tort, peut-être, à la profession. je sais pas si t'as vu l'exemple récemment de Boiler Room. Tu vois, ils ont fait passer deux DJ, là. J'ai vu deux DJ.
Qui faisaient mal aux oreilles, là.
Ouais, voilà, tu vois, franchement, j'avais, j'ai,
tu vois, moi, le malaise de dire, faire ton truc, je peux te le dire avec toute mon honnêteté, ils avaient mon niveau, voilà, en DJ. Je suis de la chier. En fait, j'avais fait un peu de DJing quand j'étais assez jeune, donc il y a plus de 20 ans, et j'ai racheté une table de mix, et puis en fait je voulais jouer pour MWT Room, justement notre chaîne YouTube où toi tu es passé. Et j'ai dit, tiens, je vais commencer à me filmer, je vais sortir ma table. De toute façon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Bah, tu parles, monsieur Vautré, il va me falloir des roulettes pendant encore quelques temps. J'avais un peu leur niveau, on va dire. Donc, en fait, c'est comme si moi, j'étais maintenant, hop, à la Boléroom, quoi. Tranquille. Tiens, je vais brancher mon matos, tu sais, j'enlève le plastique sur les petits écrans. Ouais. Tu sais, le matos neuf, tu sais. J'ai même pas encore essayé. Et puis je me
plante, quoi. Sinon, ouais, mais après, comme j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, c'est du travail, de la pratique.
Ouais.
Voilà, faut le pratiquer, même si il te faut utiliser, allez, je sais pas, le bouton sync. Tu vois, moi, pour moi, le bouton sync, je me suis fixé un truc qui est de ne jamais l'utiliser.
Mmh. Ah, voilà, bien. Attention. Ça te garde. Entraîné en fait à utiliser,
ouais, c'est ça.
Alors tes oreilles et tes yeux, puisque tu vas aussi caler.
Oui, les yeux, puisque maintenant, ouais. Parce qu'en fait, maintenant, c'est ça. Bah, pas que la waveform, c'est que surtout maintenant, sur les nouvelles platines, depuis quelques années, tu as le BPM qui s'affiche. Donc c'est sûr que maintenant, quand tu bouges, voilà. Mais j'ai gardé ce réflexe-là, tu vois, de jouer avec le pitch. Et donc voilà. Donc si tu veux, je ne suis pas dans la guéguerre du ouais, je suis contre le sync, ouais, moi je suis pour le sync, moi je dis, les gens, vous faites ce que vous voulez, je veux dire, je m'en fous. C'est, tu vois, c'est moi, c'est un peu un sort de d'objectif qui est de ne jamais utiliser je dirais même mon process, de ne jamais utiliser le bouton sync, voilà, parce que j'ai ce plaisir de jouer avec le pitch, quoi, tu vois. C'est ce que je ressens, tu vois, quand je mixe ça.
C'est noble, c'est bien, bravo. très bien, donc à la suite de ça, tu continues un petit peu tu fais des promo mix, tu fais des contextes, des mix contests aussi, des choses comme ça. Et tu es assez présent sur YouTube, j'ai cru comprendre. Instagram, tu es présent ?
Ouais, beaucoup. Principalement, ouais, les réseaux sont plus actifs, c'est Instagram et YouTube. Et après, SoundCloud aussi, j'essaye, mais le problème, SoundCloud, c'est que tu sais, avec SoundCloud, on se heurte au strike. Des fois, si tu mets une promo mix ou même un remix que tu fais, t'as l'algo qui va te strike. Donc, t'es obligé de pitcher le bordel et ça donne des fois un rendu un peu dégueulasse, quoi, pour que ça passe.
Tout à fait.
Mais sinon, ouais, principalement Instagram, YouTube, ouais.
Et tu rejoins donc le collectif Music We Trust depuis quelques mois maintenant, hein, c'est ça ?
Exact. Ben, exact. Ouais. Grâce à vous, à votre invitation. Donc, quand tu m'as proposé, quand toi et toute la team m'avait parlé de ce projet, moi je vous ai dit de suite, allez banco, j'aime le challenge, j'aime l'aventure, quoi. Partir à l'aventure.
Ouais, c'était pour nous l'idée, c'était de pouvoir rester chacun indépendant et s'entraider, en fait, en mode si t'as besoin d'aide sur un mix, sur un master, t'as besoin d'une autre paire d'oreilles, si tu as besoin d'un endroit pour te promouvoir aussi, avec par exemple MWT Room, le podcast ici aussi, pour un peu s'entraîner, ou en tout cas s'écouter entre nous et discuter entre nous, et puis peut-être atteindre un public, même si c'est pas non plus le but de ce podcast de faire de la pub, mais c'est histoire de parler de la musique à d'autres gens et puis de faire découvrir ce qu'on fait, quoi. Ça, c'est
vraiment, voilà. Puis aussi, comme tu l'expliques si bien, c'est l'entraide. C'est vrai que le souci, c'est que peut-être certaines personnes, tu vois, on parle de la production, du DJing, c'est aujourd'hui un marché qui est, je dirais, saturé. Et donc, il y a certaines personnes qui pensent que c'est aussi une compétition. Alors oui, il y a une certaine forme de compétition, mais il faut pas tomber dans le côté je suis le plus beau, je suis le plus fort, vous êtes des... voilà. Ouais. Non, il faut conserver, je dis, cette forme d'entraide, parce que chaque personne a eu une expérience de vie différente, a eu une approche différente, et justement, c'est ça qui fait que on s'enrichit, justement, dans nos process, dans le process créatif.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et on voit beaucoup de DJ aussi faire des collabs entre eux, hein, et je pense que c'est toujours bien de mélanger les audiences, mélanger nos fans respectifs. Mmh. C'est aussi ça, Music We Trust, c'était de faire des collaborations entre nous. J'en ai fait pas mal avec l'Invi, d'autres en ont fait entre eux, et puis voilà, se croiser nos...
nos univers.
Nos univers, voilà. Exactement, quoi.
Voilà.
Et surtout nos expériences. Moi, ce que j'adore dans la collab, c'est de pas juste. Je sais que beaucoup font la collab comme ça, c'est-à-dire je fais ma sauce de mon coin, je t'envoie les fichiers, tu fais ta sauce dans ton coin, tu m'envoies les fichiers. Et en fait, moi, je préfère faire des sessions à écran partagé où on regarde les waveforms entre nous, on compose des fois un peu entre nous, on se laisse un peu de temps pour faire les choses de notre côté, mais après, on doit essayer de convaincre l'autre de ce qu'on a fait et de lui expliquer comment on l'a fait. Puis ça le fait grandir aussi, ça lui dit « Ah tiens, t'as utilisé ce plugin pour ça, etc. etc. »
Bah, c'est le mieux. C'est le mieux aussi. Il y a le côté instantané.
Ouais. Alors, c'est pas évident souvent à distance, hein, parce que c'est toujours mieux quand l'autre il est à côté, dans le même studio, etc. Mais on n'a pas toujours les moyens d'avoir un studio comme ça qu'on peut partager. Moi, j'avais invité Linvi l'année dernière chez moi, donc on avait fait notre dernière collab ensemble. C'était vraiment chouette. On a pu profiter aussi du beau temps, etc. C'était au mois de mai, je crois.
D'ailleurs, très beau studio, PK, je précise.
Ah, oui, c'est un home studio, hein. Attention.
Ouais, mais faut le dire.
Ok, bah écoute, merci. Et très belle platine de ton côté aussi, hein, puisque dans tes vidéos, on les voit, on voit ton petit setup, ta façon de filmer est vraiment chouette. Bon, on va arrêter de se jeter des fleurs.
Ah non, mais ça fait du bien
pour
l'ego.
Pour l'ego.
Tu vois, Alors, je précise, je n'ai pas un ego surdimensionné. Voilà.
Ok. Ah bah, en parlant d'ego, non, rien à voir. Parle-moi un petit peu de comment tu produis, toi, de la musique. Tu pars de rien. Tu es devant Fruity Loops. Allez, dis-moi comment.
Ouais, non. Bon, alors, franchement, pour la blague, aujourd'hui, ouais. tu me remettrais sur Fruity Loops. Je serais incapable de le refaire marcher tellement que ça fait des années que je suis sur live et que je sais plus. Puis la notion de pattern, je suis un peu perdu, quoi, avec FL. Si je m'y remets, non, ça va être catastrophique. Non, je préfère rester sur live maintenant.
Très bien. Donc, tu ouvres live, d'accord? Est-ce que, avant d'ouvrir live et à commencer à composer, est-ce que tu fais quelque chose avant?
Ouais. Alors, enfin, l'approche, je dirais que le plus souvent, je pars sur des impros sur mon clavier. Et en fait, je pianote ou même j'écoute d'autres styles de musique. Et voire même des fois je peux me mettre à chanter sous la douche, tu vois. et dès que j'ai une idée de note ou un truc, pour l'anecdote de la douche, ça m'était arrivé et je me suis dit, ah ben ça peut être pas mal, tu vois. Et ensuite je sors vite de la douche, je vais chercher le téléphone, je mets le dictaphone et tu vois, et je me mets à chanter pendant 15-30 secondes, quoi, c'est le truc. Et après, tu vois, voilà, c'est je pense qu'on l'a tous fait.
C'est intéressant de composer avant d'être dans le dos, quoi. Pourquoi?
Ouais,
parce
voilà.
Que souvent, on se pose devant le dos et on dit c'est de là que je vais commencer quelque chose. Mais si tu fais un processus avant, moi j'en fais aussi un avant, c'est-à-dire que, alors je vais pas le faire au piano ou quoi que ce soit, mais je vais poser un concept en fait, tu vois. Je vais essayer de dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Et je le pose sur papier ou sur ma tablette, j'écris et je dis voilà, sur cette prochaine chanson, j'ai envie d'exprimer ça. Et en fonction de ce que j'ai envie d'exprimer dans ma chanson, bah déjà j'aurai le mood. J'aurai le tempo, j'aurai l'accord, enfin pas l'accord, mais je saurai si c'est mineur ou majeur, par exemple, tu vois, ou si c'est ou si c'est un style de musique, par exemple, je suis dans un mood que mon EP il sera sous ce thème là, bah je sais que je vais rester un peu dans ce thème là, mais je vais exprimer quelque chose, ouais, bref. Donc je pose ça sur papier avant et après j'ouvre mon dos et je compose. D'accord. Donc toi, tu composes un peu avant, tu vas essayer de te trouver des avant.
Ouais, c'est en fait, si tu veux, c'est soit je compose, je pianote avant de trois trucs, ou soit des fois c'est je lance le dos et j'utilise mon clavier maître, tu vois, je mets par défaut la piste piano, et donc voilà, c'est comme ça. Et comme je t'ai dit, voilà, ça peut être une note qui se démarque, et en fait c'est à partir de là que je commence à travailler une boucle. Et ce qui se passe, c'est que dans le process, une fois que j'ai ma boucle, je la laisse tourner indéfiniment. Donc, en gros, elle tourne non-stop. Et si tu veux, à chaque écoute, je construis la structure dans ma tête. Et puis, quand je la tiens, quand je sais quelle direction lui apporter, eh bien, après, je la transpose. Tu vois?
D'accord. Donc, tu fais la hitbar loop dans Ableton, c'est juste?
Ouais, c'est ça.
Voilà, tu la fais tourner en boucle. Et après, tu sauras, tu commences à faire dans ta tête la composition, l'arrangement, on va dire.
Ouais, c'est ça. Et je rajoute au fur et à mesure les VST, les samples et tout, et je module, et après je retourne sur le clavier maître et des fois je pianote autre chose pour compléter.
Alors, voilà, je te rejoins 100%, c'est comme ça que je fais aussi.
Ouais, voilà, c'est
si une boucle elle me lasse trop, c'est que elle est pas suffisamment bonne. Donc il faut vraiment que je fasse un truc quand tu
voilà, exactement.
En boucle, c'est bon.
Ouais. Exactement, là-dessus je suis comme toi. C'est si vraiment à force d'écouter la boucle, je me dis oh là, elle est lassante. Mm-hmm. Bah je passe à autre chose.
Et moi, tu sais que là, actuellement, je suis en train de composer un morceau où j'ai une boucle. Ah, je la surkiffe, mais ouais. j'arrive pas. Enfin, c'est pas que j'arrive pas au bout de la composition, mais je sens que celle-ci, elle sera compliquée parce que je veux vraiment exprimer quelque chose de particulier dessus et j'aimerais vraiment la mettre dans le bon ordre, etc. Mmh. Et du coup, ça fait 3-4 semaines que j'écoute vraiment celle-là en boucle. Et en fait, elle me tarde d'être composée. En fait, elle me tarde d'être arrangée. Et ça m'énerve.
Mais après, est-ce que des fois tu dans ton process tu rencontres ouais. des contraintes des fois est-ce que t'as parfois des contraintes
oui. Oui, ouais. Bien sûr. Et d'ailleurs, je m'en impose aussi puisque ça me permet d'éviter de me dire putain, qu'est-ce que je fais après. En fait, si j'ai une contrainte, je dis bah de toute façon, je suis obligé de faire comme ça. Donc voilà.
Ouais.
Mais bon, je m'impose ou je m'impose pas. En fait, j'ai déjà dans ma tête un cadre de comment j'arrange mon morceau. Un peu comme de la pop, hein, on va dire, des choses comme ça. Mais au final, je vais plutôt utiliser un cadre. Et ensuite, si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, je fais autour du cadre. Mais ouais, avec le cadre, c'est pas imposé, c'est pas une contrainte, mais ça me plaît. Tu vois, des fois, je compose toujours de la même, enfin, j'arrange toujours de la même manière, mais au final, aucun de mes morceaux n'est arrangé pareil. Parce que à la fin, j'ai tordu l'arrangement, en fait. Donc ça, c'est bon. Et dans la boucle. Et dans la boucle, les contraintes que je me mets actuellement, c'est surtout sur le genre, tu vois. Je vais plus être dans un genre dansant, plus club, en fait. Donc, de toute façon, là, il va falloir que j'évite les côtés contemplatifs, quoi, de ma musique. Il va falloir que je fasse quelque chose qui bouge. Donc, là, le truc, c'est que si j'arrive pas à bouger dessus, moi-même, c'est ce que Leroy Chambers me disait quand j'étais dans sa formation à Audiocamp. Il disait, en fait, si ça te fait pas bouger les fesses, c'est que c'est pas bon. Il faut shake that booty, comme il disait. Lui, il disait ça, mais pour la phase de mix, en fait. Si quand tu mixes, t'as pas un feeling de vouloir danser, c'est que tu l'as. Ouais, t'as pas donné assez de patates à ton mix, quoi, on va dire.
Ouais, mais ça me fait sourire ce que tu racontes, parce que je me souviens d'une interview de certains artistes qui ont leur propre approche, justement par rapport à leur production, quand ils disent. Qu'ils le sentent bien ou ils le sentent moins bien, tu vois. Il y a deux trucs qui m'avaient marqué. C'était Guetta dans une interview qui disait que pour lui, s'il avait la chair de poule en écoutant le son, c'est que pour lui, le son était bon, tu vois.
Voilà. Ah,
et,
oui.
Ouais, j'ai entendu ça. Et il y en a une autre qui est marrante. C'était un gars qui travaillait avec, alors là, on change complètement de registre, mais avec Eddie Mitchell. Et il avait raconté. Il me semble, mais je te parle de ça, j'ai vu ça il y a des années sur ce reportage. Et il disait qu'en fait, apparemment, Eddie Mitchell, il écoutait, mais il ne réagissait pas. Et donc, du coup, le mec, il comprenait pas pourquoi il réagissait pas. Il a dit, on sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est cela. Et un qui le connaît, qui le connaissait bien, en fait, lui a expliqué que, justement, s'il ne réagit pas, c'est parce que pour lui, c'est bon. Parce qu'en fait, il a rien à dire. Voilà, j'avais entendu cette histoire-là, donc du coup ça m'avait fait rire, quoi. Et du coup ça m'avait marqué, quoi. Je me suis dit, ah ouais, quand même, donc ça prouve vraiment que chacun a une approche différente, quoi.
Voilà. Ouais. Donc c'est sympa, ouais. Mais je crois que dans le cas de David Guetta, lui, je crois, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre avec de ses dernières interviews, c'était que il produit une trentaine de morceaux par semaine, et puis c'est vraiment celui-là qui lui fait vibrer, qui va prendre et va sortir, quoi.
Ouais, qui disait que en fait il y a un track potable sur et que sur son disque il y a voilà et que sur son disque il y a une centaine de tracks, et il a dit c'est de la merde, quoi, ça sortira jamais.
Voilà.
C'est je pense un peu comme toi et moi, on a plein de projets qu'on avait commencé, qu'en fait on n'a pas fini parce qu'on trouvait que c'était nul, quoi.
Alors au début, j'en avais fait beaucoup. Les deux premières années, j'ai dû faire 40 projets et en sortir que 5, tu vois.
Ouais.
Et maintenant, je fais beaucoup moins de faux projets comme ça. C'est-à-dire que j'ai une idée, je la pose, comme j'ai un process, en fait, je vais au bout. Et puis en général, je fais quelque chose en one shot. Là, cette année, j'ai fait deux compositions, dont une pour l'EP qu'on veut sortir avec le collectif, et puis je l'ai fait en une traite, et puis mon morceau là que je vais faire et que je kiffe, mais que j'aimerais sortir prochainement, ça fait deux, et voilà. Ouais, j'ai hâte aussi de l'entendre. Ouais. J'ai aussi hâte de l'entendre. Mais il se produit pas tout seul, ce con. Comprends pas.
Ah, bah là, ça, c'est.
Non, j'y mets de l'effort, j'y mets de l'effort. Tous les jours, je suis dessus. Hein, donc,
quand on parlait des contraintes, il faut se mettre des fois une deadline et se dire, bon, il faut que je clôture le truc à tel moment, tu vois. Moi, tu vois, le truc, c'est que j'essaie de me faire, tu vois, je me mets des fois des contraintes pour me dire, bon, allez, hop, deadline à telle date, il faut que je fasse le truc. Mais après, en soi, j'y vais souvent au feeling, quoi, tu vois. Et donc, comme tout créatif, on n'est pas à l'abri du syndrome de la page blanche, hein, aussi.
J'en suis pas encore là, mais c'est encore tout un autre sujet.
Moi, je peux t'assurer, c'est horrible. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Ça m'est arrivé, l'année dernière, pendant 2-3 mois, ça a duré et ça me rendait dingue de pas pouvoir sortir une idée ou un truc. En fait, tu passes du temps à pianoter et c'est trouvé. Et en fait, il n'y a rien. Et du coup, tu presque t'en deviens frustré, quoi. Donc, la solution, moi, je le dis, c'est s'il y a le syndrome de la page blanche, faites autre chose. Voilà. Sortez prendre l'air, lisez un livre, regardez un film, une série, jouez aux jeux vidéo. Il faut faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique.
Ou lisez le livre de Rick Rubin qui s'appelle The Creative Act, dans lequel il te dit comment il fait pour siphonner la créativité, où elle se trouve dans l'espace-temps, quoi.
Ah bah, je ne connaissais pas ce livre.
Voilà. Je l'ai lu en livre audio, parce que je suis un flemmard, mais je l'ai eu en livre audio et ça m'a un peu retourné, ça m'a donné pas mal de choses que je savais déjà de moi-même, en fait. De comment je posais mon acte créatif avant de composer. Mmh. Et d'où tu peux aller chercher de l'inspiration. Et c'est souvent en, comme tu dis, en faisant autre chose. Ouais, et des fois, en faisant rien, surtout en étant très calme. Lui, il faisait beaucoup de. Son truc, c'est la méditation. Il a commencé très jeune à faire de la méditation. Et ça lui a apparemment ouvert pas mal de chakras de la créativité. Alors, il n'est pas très spirituel, mais il utilise beaucoup d'éléments spirituels, mais il l'est lui-même pas trop. Et il ne le conseille pas dans ses livres, hein, donc ce n'est pas un livre religieux non plus ou de gourou. Même s'il peut, il peut paraître gourou, le gars. Mais franchement, ça m'a retourné dans le sens où, ah ouais, c'est comme ça que tu peux vraiment avoir de la créativité partout autour de toi et c'est vraiment intéressant. Bref, donc, petite parenthèse, lisez ce bouquin, il est vraiment cool. Moi, je l'ai trouvé intéressant, en tout cas.
Okay.
Et on est loin du côté du gars qui ouvre son Ableton tout de suite et qui essaie de jammer, qui essaie de faire un truc. Et puis après, il dit, ah ok, cette musique, elle ressemble à ça. Et puis du coup, je vais l'appeler comme ça. En gros, alors je dis pas que c'est pas un acte créatif, ça, c'en est un quand même. Mais je veux dire, tu lances des pattes sur un mur et tu regardes ce qui colle, quoi. Je suis un peu moins fan de ça. C'est pour ça que maintenant, je crée et je jette moins, en fait. Je fais que vraiment de la pure création et je me concentre sur ce que je fais à fond, quoi. Voilà, bon, c'était un peu l'idée.
Ouais, bah.
Bref, donc tu composes, tu arranges, ensuite. Une fois que l'arrangement te plaît, est-ce que tu passes tout de suite à la phase mix mastering ou est-ce que tu fais encore quelque chose avec ?
Alors, avant de passer à mix mastering, je réécoute tout le projet.
Ouais.
Vraiment pour être sûr qu'il n'y a pas un défaut, une ligne, par exemple, d'une ligne de basse. Ça m'est arrivé sur un projet où, quand je l'ai réécouté, en fait, je me suis rendu compte que j'avais foiré une ligne de basse. Du coup, je l'ai reprise, tu vois. Et après, après écoute, l'avoir écouté au moins, franchement, je t'avoue, je crois que je le réécoute 3-4 fois au moins pour vraiment bien m'imprégner un peu du mood, de si je sens bien le truc. Et à partir de là, après, je passe sur la phase suivante, ouais.
Ok, et tu fais écouter à quelqu'un entre-temps ?
Regarde
pour toi.
Non, ça m'est arrivé de le faire écouter en session pour des sessions feedback.
Ouais.
Il y a un track sur lequel je travaille qui est quasiment fini. Si tu veux le track en question, je l'avais envoyé il y a un mois et demi en feedback à un DJ producteur que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est hyper sympa. et qui lui-même avait dit, ouais, si t'as des tracks, si t'as besoin d'un feedback, tu m'envoies, t'as mon mail, et je te fais un retour. Donc le track, il était pas finalisé, mais la structure, on va dire, était quasi complète. Et donc lui, avec son un peu son expertise, donc il m'a fait tout en retour en me disant ce qui allait, les points forts, les points faibles, ce qu'il fallait revoir et tout. Et c'est là qu'il m'a dit justement, ben, il faut revoir l'arrangement et surtout l'arrangement et le mixage. Il a dit parce qu'en fait l'idée du track est excellente. Il a dit mais par contre le problème c'est que on a l'impression que t'as fait une démo, une démo quoi. Enfin comment dire, ça donne l'impression qu'en fait ça sonne amateur alors que pourtant t'es pas amateur et tout. Mais parce que justement tu pêches un peu sur ce truc là. Donc moi j'ai pris un peu ces actes de ces conseils et c'est là que je me suis on va dire un peu auto-formé. Alors attention, je précise, je n'ai pas la prétention de remplacer un ingé son, parce que ça ce sont des mecs qui ont des années d'expérience et on en a besoin. Mais voilà, en tant que petit artiste, on fait souvent appel au système D. Et donc, du coup, voilà, j'ai essayé un peu d'apprendre des process et des petits tips, tu vois, pour réussir à la fois un arrangement, un mixage, et puis après le mastering. Parce que justement, d'accord, quand j'ai repris voilà les vieux tracks, les premiers tracks que j'ai fait. Quand je les réécoute aujourd'hui, bah en fait, je me rends compte que ouais, j'avais complètement péché sur ce détail-là, quoi. Mais c'est normal. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est un truc qui se travaille, qui se pratique d'année en année, quoi.
Mmh. Et donc mixage, tu as maintenant ton propre process. Tu as un mix bus où tu fais à chaque fois chaque track, t'as un mix différent ou t'as des chaînes, t'as des inserts de mix, t'as des choses comme ça.
Ouais, alors en fait, si tu veux, je me suis fait mon propre rack d'effets sur Ableton à partir de plusieurs plugins et VST. Et si tu veux, moi j'utilise déjà pour faire un peu ouais l'arrangement, le mixage de manière à ce que les pistes soient bien réparties, ne s'écrasent pas ou soient bien aérées. Mm-hmm. Ben moi j'utilise l'astuce du fameux bruit rose. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est en fait le bruit rose. C'est en fait si tu l'entends, ça peut ressembler à un bruit blanc, tu vois. Mais en fait, la particularité, c'est que le bruit rose, c'est un signal audio, mais où qui contient toutes les fréquences audibles. Et en fait, l'énergie de ces fréquences est répartie de manière à ce que chaque octave ait la même quantité d'énergie. Tu vois. Je veux pas trop être technique, mais c'est ça correspond un peu à ce que l'oreille humaine perçoit le son, voilà.
Ok.
Et donc justement le son n'est pas linéaire avec le bruit rose. En fait les fréquences ne sont pas linéaires avec le bruit rose par rapport au bruit blanc. Et justement c'était un mec qui expliquait que c'est un peu une astuce qui permet de mieux répartir les pistes audio sur son projet. Donc en gros, l'idée c'est tu mets le bruit rose à travers un plugin. D'accord. Donc évidemment, t'entends le petit, tu vois, donc dans le casque. Surtout le faire d'abord au casque, c'est important.
Tu fais vachement bien le bruit rose.
Ouais, voilà. Alors je sais pas si c'était un bruit. Attends. Ah non, ça c'est un bruit blanc, ça. Tu vois.
tu t'es gouré. on saura trouver ça. Hein, bref, ouais, ouais, pas de souci.
Voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails. J'ai pas envie de perdre tout le monde.
Donc tu utilises un bruit rose. Tu le fais passer à travers un plugin.
Ouais. Et ensuite, à partir de là, je mets toutes mes pistes audio à zéro, enfin à zéro en moins infini, donc carrément. Et en fait, piste par piste, j'augmente le volume, ouais, de manière à ce que on entende légèrement la piste son dans le bruit rose. Tu vois, il faut pas que ça dépasse. D'accord. Il faut que ça sorte. Voilà. Et en fait, je fais ça piste audio par piste audio. Et au final, dès que j'ai le résultat, après évidemment, on fait des ajustements parce que en soi, c'est pas une science exacte, quoi. Tu vois.
D'accord.
Il peut y avoir des petits défauts. Donc après, si t'as l'oreille musicale. Tu ajustes en réécoutant le projet, évidemment en coupant le bruit rose. Tu réécoutes et c'est là que tu te dis, oula, le truc il sonne un peu plus élevé, donc je la baisse. Et après, tu, tu pars sur la répartition du son. Est-ce que tu veux que le son soit un peu plus... Les balances, voilà. Tu pars après sur les balances. Ouais. Si tu veux que le son... par exemple, un leads, tu vois, il y a... Par exemple, il y a un track, j'ai trois leads. Donc, le leads, le main, tu vois, le principal. Et puis après, les surcouches, les layers. Donc, layer 1, layer 2. Eh bien, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que le main leads, je le laisse central. Mais par contre le layer 1 et layer 2, tu vois, qui accompagnent ces leads, et ben un a une balance un peu plus vers la gauche et l'autre vers la droite, tu vois, pour créer une sorte d'éventail d'ouverture. Mm-hmm. Et c'est beaucoup plus agréable parce que si tout est centré, en fait tu écrases toutes les fréquences, quoi, et en fait c'est un peu moche. Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je travaille. Et puis après, j'utilise aussi un autre plugin qui est formidable. Attends, il faut que je retrouve le nom. Je retrouve jamais le nom. C'est Yulan Loudness Meter. Tu sais, c'est ce qui permet de voir le fameux savoir les pics audio et tout, quoi. Ça, okay. Si tu dépasses ou pas, enfin voilà, c'est ouais, une fourchette. Pas de soucis. Pour éviter de...
Donc tu utilises un petit peu ces outils un peu visuels et ces outils auditifs avec le bruit rose, etc., pour te repérer dans le mix. Et ensuite pour le mastering, tu utilises quoi?
Alors pour le mastering,
est-ce que tu colles juste un limiteur à la fin et tu fais OK, c'est bon?
Non, je fais pas que ça. Alors le mastering, pareil, j'ai fait un rack. Et justement, je suis en train
de... Et c'est des outils plus Ableton, c'est ça, ou...
Les deux. C'est à la fois ça peut être des VST gratuits. Là, les deux VST que je t'ai cités, par exemple, le Yulan et le Bruit Rose, qui est Pink, ce sont des VST gratuits, justement. Ouais. Et non, j'utilise pour le mastering... où est-ce que je peux... Ah, j'essaie de retrouver...
Non, mais c'est pas de souci. On passe à la suite.
J'ai essayé de retrouver un peu ce que j'utilisais. Voilà,
ouais, j'utilise. En gros, tu fais du
limiteur, un limiteur et un EQ.
Voilà, EQ limiteur. Voilà. Ok, ça marche. Tu mets pas de coloration, par exemple, ou de choses comme ça. Passer par quelque chose d'analogique, une tape.
Ah si, du compresseur, glue compresseur.
Glue compressor, ok.
Ouais, un glue compressor, ouais. Je savais que j'ai oublié un truc.
Ok. Bah écoute, merci pour tes astuces. Et une fois que t'as fini tout ça, bah tu fais encore écouter, tu fais des sessions d'écoute pour être sûr que ce que t'as fait.
Ouais.
Est-ce que tu utilises un outil pour comparer? Est-ce que ton mix est bien balancé? Ce genre de choses.
Ouais. L'autre astuce, c'est sur la phase, mixage arrangement. Je fais tout le projet. Une fois que le projet est fini, je l'exporte, donc évidemment en WAV. Et ensuite, le fichier WAV que j'ai exporté, je le mets sur une piste audio indépendante dans Live. Et c'est avec cette piste audio que là, je travaille le master. C'est-à-dire, je fais pas tout sur le même projet. Je préfère d'abord, tu vois. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec un projet no master. Ensuite, je l'importe sur une piste indépendante. Et puis là, je travaille tout le master et là, je l'exporte à nouveau. Et du coup, j'ai mon truc en... j'ai projet en master, tu vois. Projet master.
Oui, oui.
Donc, c'est...
Mais tu utilises des outils pour analyser ton mix?
Oui, l'outil. Ouais. Alors, oui. Et justement, j'utilise, tu sais, l'astuce du track de référence. C'est-à-dire que j'essaie de trouver une musique qui ressemble un peu à ce que moi, j'ai produit. Mmh. Et pareil, je le mets dans une piste dans une piste de Ableton. Et donc là, je lance un plugin qui s'appelle Voxengo.
Fais de la comparaison AB, quoi.
Et je fais de la comparaison AB entre donc c'est-à-dire que dans Voxengo, j'injecte la piste audio du track de référence et la piste audio de mon track à moi. Et du coup, quand je lance les deux projets, eh bien en fait, ça me fait la double affichage du spectre du spectre sonore, quoi. Et ça permet de comparer.
Tu les colles.
Ouais, voilà. Alors évidemment, pas forcément identique à 100%, parce que bon, on a aussi la structure qui parfois peut être différente. Mais sur les parties, je regarde principalement sur les parties drop, en fait. Parce que c'est là où ça tape le plus.
Imagine que tous les artistes musicaux font la même chose. Imagine le tout premier gars qui l'a pas utilisé. C'est la rêve de tout le monde. Je plaisante, mais voilà. Alors moi, je faisais de la comparaison au début beaucoup, mais j'ai arrêté parce que on m'a aussi conseillé de pas forcément l'utiliser parce que en fait, tu fais toujours que la même chose par rapport aux autres en fait.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est bien d'avoir une référence parce que quand tu passes à la radio, quand tu passes sur des plateformes de streaming, bah, t'as envie de passer, de pas être choquant dans ce que tu fais. Mais tu as aussi le risque de passer inaperçu. Alors, on parle pas de loudness, d'être plus fort que les autres. Mais ne serait-ce, tu n'es pas différent des autres. Et donc, du coup, les gens s'arrêtent pas sur toi parce qu'ils vont écouter la musique comme ça en mode, de toute façon, j'écoute ça en bruit de fond. Et il n'y a pas quelque chose qui va les marquer. Et ça, c'est ce qu'on m'a aussi appris dans un studio. On m'a dit, ben, en fait, tu vas mixer en fonction de ce que tu entends de l'artiste et en fonction de la track. Après, tu peux aussi faire du mastering pour un album. Donc, tu vas essayer de caler, faire en sorte que l'album soit écoutable de bout en bout. Tu pourrais aussi avoir des labels qui t'imposent ça. Il y a des cas où certains labels imposent le loudness ou des choses comme ça. Et donc, là, tu es obligé d'avoir un certain loudness. Mais disons, moi, à part le fait que j'utilise la même pratique dans tous mes morceaux et j'utilise le même mix bus, etc., bah, j'essaye à chaque fois de faire différent et surtout pas trop de me comparer aux autres artistes, mais peut-être de comparer mes propres tracks entre elles pour être sûr.
Oui, le but c'est pas vraiment de se comparer aux autres artistes. Il faut garder sa patte personnelle. C'est souvent garder voir la référence. De comment eux ils ont travaillé le truc. Moi comme je t'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai aucune prétention à remplacer un ingé son. Moi je fais avec les moyens du bord, un peu système D. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu ces astuces là pour pouvoir me perfectionner. Parce que de toute façon rien n'est jamais acquis.
Ouais. Ok. Très bien. Et avec quoi tu te distribues ta musique? Avec quoi tu distribues ta musique?
Alors sur la distribution. Alors non, pas du tout. En indépendant, j'ai distribué avec eMusician.
Ah oui.
Et après un autre track qui était une collab mais qui n'est plus dispo sur les plateformes, c'est TuneCore justement.
D'accord.
Voilà.
Donc tu es sur TuneCore ou tu?
Non, TuneCore. Non, en fait, si tu veux, j'ai sorti deux sons en indépendant sur TuneCore, mais je les ai retirés. Pas parce que ils étaient mauvais ou autre, c'est parce que TuneCore a eu, on va dire d'ordre financier, quoi, voilà, a augmenté l'abonnement et donc je me suis dit non, c'est bon, je vais dire, en plus le truc c'est qu'en termes d'écoute j'en faisais pas beaucoup, donc je me suis dit bon, ce sera pas une grosse perte quoi de faire ça. Hormis la collab que j'ai retirée, j'ai prévenu mon ami chanteur justement qui a travaillé avec moi sur cette collab là. Par respect, parce que lui, il a fait aussi partie intégrante du process. J'ai préféré lui prévenir, voilà, que je pouvais pas continuer à distribuer la musique sur cette plateforme, mais que évidemment, j'envisageais de la distribuer, de passer ailleurs, quoi, de passer ailleurs, voire même de la retravailler et d'essayer cette fois de la faire signer en label. Et c'est lui justement qui a proposé, qui a dit, bah écoute, il a dit si tu veux, on peut même la refaire, on peut faire une nouvelle version, quoi. Voilà, donc je rechante à nouveau par-dessus, on modifie un peu l'instru, on retravaille les trucs et tout, tu vois. Je lui dis, bah, moi, avec grand plaisir, hein, je dis, si on peut même améliorer le track d'origine, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est du coup, probablement, un projet en cours. Voilà, seul l'avenir nous le dira.
Parfait. Donc tu es passé entre différents distributeurs au final. Et actuellement, tu en as un, tu as eMusician, c'est ça?
Ouais, pour l'instant, j'ai eMusician sur lequel est distribué mon tout premier track, Cheat Codes, que voilà, que tu as cité en début d'émission.
Et ton label, c'est lui qui gère Parasite et Sakura, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors eux, sur les labels, eux, ils ont une autre structure, ils passent par une autre plateforme dédiée pour justement les labels indépendants. Donc là, c'est un tout autre domaine, là.
D'accord. Bon. On verra ça. En tout cas, pour l'instant, moi, je suis aussi sur de la distribution classique. Hein. Moi, je suis sur Lander pour l'instant. Peut-être changer cette année, on verra. Donc, voilou. Ok. Bah, écoute, merci pour toutes tes astuces. Est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on a un super sujet de malade? Tu sais, le sujet absolument pas polémique actuellement.
Oh bah ah oui, oui. Alors pour moi perso, c'est pas polémique, au contraire. Qui adore me documenter, comme tu as si bien expliqué les nouvelles technologies et les innovations.
J'ai pas eu le temps de l'annoncer dans le sommaire de l'émission, mais je pense que le titre de l'émission parlera de ce sujet. Donc, si vous avez attendu jusqu'à là, pendant la première heure, pour arriver jusqu'à ce sujet, bienvenue dans le sujet de l'IA dans la musique. Voilà, youpi.
Bravo.
Alors, on va être vachement précis et on va vraiment donner un avis clair sur trancher sur la question. Non, pas du tout.
Alors, attention, je précise, je ne prétends pas être un spécialiste professionnel de l'IA.
Voilà. Les disclaimers arrivent déjà.
Voilà. Je préfère précisément, ce n'est que mon ressenti et ma vision par rapport à cette nouvelle techno, tu vois. Donc, le but, c'est d'apporter, comme tu as dit, un point de vue et un avis.
Ouais. Alors, il est où Eskeno, là, qui avait un avis sur l'IA et qui n'est pas venu au podcast, hein. Voilà, il est où
Il n'est pas là.
Non. Ah, il était invité. Lui, il avait un avis plus faut pas hésiter, l'IA, il n'y a pas de problème. En attendant, l'IA, en 2 minutes, elle te compose n'importe quel track. Bon, après, c'est plus ou moins bien pour l'instant, mais vu comment elle y arrive et comment les gens se trouvent bernés par cette musique, il y a de quoi s'inquiéter en tant que producteur indépendant comme nous, puisque je vais balancer quelques chiffres, et alors que la technologie est quand même très jeune, hein, elle date de 2023, il faut savoir que il y a déjà plus de 14 millions de titres qui ont été créés via IA, soit 13% de toute la musique publiée mondialement. Voilà, donc c'est quand même un sacré chiffre.
C'est vertigineux.
Vertigineux. En novembre 2025, donc il n'y a pas si longtemps que ça, 34% des nouveaux titres uploadés sur Deezer chaque jour étaient générés par IA. Alors, je précise bien par Deezer, parce que c'est Deezer qui a sorti ces chiffres. Ouais. Deezer, la fameuse plateforme un peu plus célèbre en France, je crois que c'est son marché principal, mais voilà. Deezer qui se prend un peu pour le pourfendeur des IA et qui a comme ligne éditoriale de dire nous, on n'est pas d'accord avec les musiques générées par IA, mais elle ne les bannit pas non plus de sa plateforme.
Oui.
Elle les démonétise.
Justement, il y a un fait intéressant par rapport à Deezer, mais je t'en parlerai. J'en parlerai juste après. Je laisse finir.
Ouais, pas de souci. Donc en fait, il disait. Je trouve encore sur leur site un an avec. En fait, pendant un an, ils ont fait tourner un outil de détection d'IA, d'accord. Et ils disent que plus de 85%. De toutes les musiques générées par IA sont frauduleuses. C'est-à-dire que soit elles imitent clairement un autre artiste, elles utilisent des samples qu'il faudrait pas, enfin voilà. Donc elles fraudent, quoi. Voilà. Ou elles disent pas qu'elles sont IA. Alors que normalement, quand tu maintenant déclares de la musique, que tu dis,
il faut la déclarer, ouais.
Il faut, enfin, tu as un endroit où tu dis, est-ce que je fais de l'IA ou pas?
Donc, justement, en parlant de Deezer, il y a dans un reportage très, très intéressant, c'était un reportage vidéo du 20 minutes où il parle avec les gars de chez Deezer. Et tu sais que Deezer, ça a été les premiers à avoir mis en place la notification sur les titres en disant un sort de label en disant bon, ça, ce track est généré à 100% par IA, mais que par contre, ils ont dit que si une musique a été composée, produite par un humain, même les paroles écrites par un humain, mais que celui-ci a fait chanter une IA dessus, en fait, la musique en soi ne sera pas considérée comme une musique générée par IA. D'accord. Même si la voix du chanteur ou de la chanteuse est de l'IA. Parce qu'en fait, ils partent de l'idée que tout le process créatif a été fait par un humain. Voilà. Bon, après, par contre, évidemment, sur les royalties... c'est pas recevable. Enfin, en gros, tu peux pas recevoir une partie concernant le chant, parce qu'en fait, vu que c'est pas un humain, donc ça, c'est ça outrepasse quoi. Mais sur
oui,
le reste.
Mais en fait, dans tout ce qui est royalty, c'est le côté interprète. Donc,
côté interprète. Ouais.
Si maintenant tu as généré une voix via IA, en fait, tu déclares juste pas d'interprète, tu déclares juste que tu
oui, voilà, c'est ça,
de la musique pas. Et puis c'est tout. Voilà.
Exact. Oui, voilà, exactement. Exactement.
Après, si un jour quelqu'un te la chante sur scène pour du vrai, ben elle touchera son cachet comme quoi elle l'a chanté. Elle sera interprète à ce moment-là, mais dans ton master finalement, tu seras seul propriétaire, etc.
Bon. Ouais.
Ok. Ouais. Donc polémique majeure. Qu'est-ce qu'il y a eu ces derniers temps ? Il y a eu un certain morceau qui était une collab entre Drake et Weeknd. Entièrement généré par IA, ce qui s'appelait Earth on My Sleeve, qui a été supprimé après plainte d'Universal. Donc là, déjà, Universal qui commence à se dire, oula, qu'est-ce qui nous arrive là ?
C'est pas un petit Universal.
Voilà, qu'est-ce qui nous arrive ? Il y a des gens qui commencent à imiter avec l'IA nos artistes à fort succès. C'est sûr qu'ils sont pas contents. Alors eux, ils ont maintenant réussi à le supprimer. Alors que d'un autre côté, je suis sûr qu'ils promouvoient à fond le fait de créer de la musique par IA. Bon, bah, ça après.
Oui, bah c'est
encore une fois polémique. Hein.
Ouais.
Il y a Grimes, tu connais Grimes ?
Oui, bien sûr, bien
sûr. La chanteuse, c'est pas Maître Gims, hein. Attention.
Ouais, je sais. Alors moi je dis, j'ai toujours dit Grimes en fait. Grimes. Grimes. Ouais.
Ok. Qui était l'ex de Elon Musk là, avec qui elle a eu son enfant avec un code-barre là, un nom de code-barre.
Qui d'ailleurs, petite anecdote, a produit une musique pour le jeu vidéo Cyberpunk 2077.
Oui, c'est juste. Elle a même prêté
sa voix à un des persos présents dans le jeu. Enfin, je dis ça parce que j'adore ce jeu. Donc c'est pour ça.
Alors, ouais. Alors, elle est pas seulement prêté une musique et un personnage. Elle apparaît dans le jeu et elle fait un concert dans le jeu.
Oui,
voilà.
Oui, bah, c'est son personnage qui s'appelle Lidzi, je crois, Widzi, un truc comme ça. Voilà.
Et donc ça, c'était dans l'extension de Cyberpunk. Elle apparaît sous forme d'un... Elle fait un concert. Donc elle autorise qu'on clone sa voix, mais qu'elle veut 50% des revenus. Donc faites un succès avec sa voix, pas de souci, et puis derrière, elle viendra toquer à votre porte. Voilà.
Là, tu vois, c'est une utilisation, je dirais, intelligente. Parce que comme on sait que c'est quelque chose qui aujourd'hui et demain sera complètement inévitable, je trouve que c'est une bonne, c'est une idée quoi, c'est pas idiot, le raisonnement. Voilà,
pour moi, c'est chacun a son avis et c'est pour ça que j'ai pas un avis tranché pour l'instant dessus. Et en plus, il y a des méthodes, enfin il y a des procès qui sont en train d'éclater, il y a les majors qui commencent à se dire qu'est-ce que c'est ce bordel, ou en même temps qui se disent tiens, on va l'utiliser. T'as des artistes qui se disent allez-y, n'hésitez pas, et il y en a d'autres comme Sting ou McCartney qui disent ah non, nous on déteste l'IA, on n'en veut pas. Voilà.
Vas-y.
On a, comme je disais, les majors qui font des procès qui poursuivent ces sociétés comme Suno, Boomi qui font de l'IA, mais qui ont maintenant déjà conclu des accords avec eux pour détecter si quelqu'un, on le sentait déjà hein, pour ceux qui ont déjà fait le test de Suno, quand tu dis je veux une musique de Weeknd ou de Drake, il va te dire déjà t'as pas le droit de dire ces mots là ou en tout cas il faut t'as plus le droit d'utiliser. C'était un peu comme ChatGPT quand tu disais je veux du tel et tel artiste, ils vont dire non, c'est pas possible. Ah, je veux du Disney, non, surtout pas.
Ouais, c'est comme le succès de ce remix de Papa Outé de Stromae, qui a été fait par IA. Elle a été écoutée je sais pas combien de fois et elle cartonne. Et en fait, c'est un truc complètement généré en IA. Mais justement, comme tu dis, il y a ce flou-là. Quand tu penses, j'ai vu les chiffres et certaines prévisions. En fait, sur l'IA, le marché mondial prévoit une très forte croissance d'ici 2027-2028, qui se chiffrerait à presque 3 milliards de dollars, quoi. Tu vois. Donc, tu peux pas te dire que les majors, ils vont pas se priver de ça, quoi. Tu vois, ils vont pas partir en guerre contre ça.
Ouais, ils avaient déjà loupé à l'époque le tournant du MP3, et puis ils sont bien rattrapés. Mais voilà. Là, je pense qu'ils veulent pas louper ce virage-là non plus. Le virage de l'IA, que ce soit dans la vidéo, dans l'image, dans l'audio. Et du coup, bah, comme beaucoup d'autres gros artistes, ils vont tout de suite mettre des billes dedans et puis se dire, bah, moi, je m'en fous, je vais utiliser ce système, je vais même le promouvoir. Et au final, en fait, c'est ce que la stat disait, c'est que plus de 75% des gens, si tu leur fais écouter de la musique, même plus, je crois que c'était 90.
C'était 97% des auditeurs qui ne distinguent pas la musique qu'il y a. Voilà. D'une musique humaine. Et c'est une étude qui a été faite justement par Deezer avec Ipsos, je crois. C'était Deezer qui a commandé à Ipsos ce sondage-là. Et donc, c'est assez impressionnant, quoi. Quand tu
mais
vois
plus
chiffre,
de 70% de ces mêmes personnes seraient contre, quoi. C'est-à-dire, vont dire, ah non, mais je veux surtout pas écouter de la musique faite par IA. Parce qu'ils se disent, moi, je veux écouter un artiste, un vrai, un humain qui chante, quoi. Si déjà.
Ouais.
Donc, on en est encore là. Après, c'est une stat comme une autre. Dans 10 ans, on en reparlera, peut-être en rigolant de cette stat. Non, mais c'est vrai. C'est toujours pareil. Quand tu changes de technologie ou d'univers ou de monde ou de.
C'est un peu comme, tu vois. Voilà. C'est si tu veux actuellement, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui est très jeune. Et je dirais qu'il y a quand même, il y a une certaine zone grise actuellement. Je veux dire, c'est pas totalement légiféré. C'est on sait pas comment aborder le truc parce que tu sais que aujourd'hui, tu fais une production IA, mais en fait, l'IA apprend à partir d'immenses bases de données. Des musiques qui elles sont sous des droits d'auteur, tu vois. Donc c'est un peu le zone de flou. C'est aussi comme par exemple, tu vois, les morceaux générés par IA, il y a une tentation, par exemple, tu vois, les commerces, quand tu diffuses de la musique, en fait ils doivent payer une redevance à la SACEM. S'ils veulent faire des économies, ces commerces là en fait, ils prennent des, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dessus où ils payent un abonnement en fait et ils leur fournissent des musiques générées par IA pour leur magasin quoi. Et en gros, ces commerces peuvent diffuser librement ces musiques-là sans verser de redevance. Parce que justement, c'est considéré comme c'est pas humain, comme c'est pas, tu vois. Donc c'est ça le fameux flou, tu vois.
Alors moi je savais pas qu'ils avaient pas besoin de pas payer la redevance malgré que ça soit de la musique par IA.
Mais après c'est pas sans risque parce qu'évidemment après quand ils vont je pense légiférer tout ça il y aura un certain cadre. Tu vois c'est comme l'arrivée de chaque technologie. Tu vois quand tu penses que quand la télé est arrivée tu vois dans les foyers. Dans les années 50, quoi. Tu vois, t'avais le cinéma, le théâtre ou même la radio qui s'inquiétaient parce qu'ils disaient, attendez, ça veut dire que les gens, ils sortiront plus voir les trucs, tu vois. Et aujourd'hui, on est en 2026, les gens continuent de consulter, de consommer sa télé, alors différemment, maintenant, avec les plateformes, mais continuent des fois d'aller, de sortir un peu. Bon, même si le prix du billet de cinéma est quand même assez, assez élevé dans certains endroits, mais voilà, ce que je veux dire, en soi, c'est pas... finalement ça n'a pas fait disparaître tout ça, je veux dire, et la preuve, le cinéma a de nouveau rencontré ce problème-là avec l'arrivée des plateformes de streaming comme Netflix. Voilà, ils ont fait face, mais regarde aujourd'hui, maintenant il y a des partenariats entre les studios de cinéma et les plateformes de streaming, donc à long terme il y aura à mon avis une forme de collaboration entre les plateformes qui gèrent les IA justement dans la musique et les majors ou labels, tu vois, des accords. Mais tout ça, je pense, c'est en train de se mettre en place.
Ouais. Alors, juste pour cette histoire de SACEM, de pas payer la SACEM, je mets quelques précisions autour. La seule manière que tu as de ne pas payer la SACEM, c'est si la musique que tu passes n'est pas déposée à la SACEM. Donc, effectivement, dans le cas où tu as acheté ta bande auprès d'un magasin qui elle a aussi très bien pu le composer avec des vrais artistes humains, mais elle cède entièrement tous les droits. Ça dépend. Tu peux être libre de droit, mais tu peux l'avoir déposé quand même. La musique n'est pas déposée à la SACEM. Il n'y a aucun compositeur, éditeur ou ayant droit membre d'une société de gestion. D'accord. Le magasin détient par écrit les droits de diffusion publique. Donc, en gros, même si la musique est libre de droit, ça ne veut pas dire que tu as le droit de la diffuser publiquement.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est faire rien, c'est comme l'open source et...
C'est pour ça qu'il y a ce flou-là par rapport aux morceaux générés par IA.
Et donc, en gros, le fournisseur IA doit garantir contractuellement le royalty free pour diffusion publique. Et donc ça, bah, soit tu as un contrat directement avec... Suno, de base, te les fournit pas, d'accord ? Donc, il faut que tu fasses un...
Il faut que ça soit explicitement mentionné.
Voilà. Voilà. Voilà, ça c'était pour être clean là-dessus, parce que c'est souvent délicat. Tu sais, il y a les droits de diffusion, les droits, les royalties, et tu as les droits voisins aussi souvent, qui sont très très ignorés, mais là on parle de droits voisins. Quoi. Très bien.
Ça va.
Réaction des plateformes, donc on a dit Deezer qui détecte, filtre les morceaux IA, refuse de les recommander, écarte les fraudes de streaming. Voilà, bon, les fraudes de streaming, ça c'est avec les bots d'écoute, etc. C'est encore un autre débat. Et t'as Bandcamp aussi qui s'y est mis récemment. Moi, je suis sur Bandcamp et je suis très content de cette plateforme. Et voilà, dit qu'elle bannit tout contenu généré par IA pour prioriser la créativité humaine. Alors, ok, mais pour l'instant, la seule chose qu'elle a mis en place, c'est pas un robot de détection, c'est plutôt... Bah, s'il vous plaît, dénoncez, si vous trouvez que quelqu'un fait de l'IA, vous nous le signalez, et puis nous, on vérifie, et puis on bannit, quoi. Sachant qu'on vient de dire que 75% des personnes ne peuvent pas détecter la différence entre eux, ça va être délicat. Et en plus, plus on avance dans le temps, et moins ça sera différenciable.
Hein. Ah ben, plus les algorithmes vont se perfectionner, hein. Ça, c'est...
Ouais, clairement. Donc, c'est un peu faible, selon moi, mais why not? De toute façon, Bandcamp, encore une fois, c'est pas une plateforme très publique. C'est une plateforme un peu réservée. Si tu commences à avoir une base de fans que tu as entretenue toi-même en tant qu'humain, alors est-ce qu'une IA peut entretenir des bases de fans et leur dire allez sur Bandcamp pour acheter ma musique? Ça reste à voir. Mais voilà, en tout cas, Bandcamp fait quelque chose, Deezer pas fait quelque chose. Et Spotify? Bon, Spotify, en 2025, ils ont supprimé 75 millions de titres spam et interdit les deepfakes vocaux sans accord. Voilà. Voilà. Alors, les 75 millions de titres spam, ça fait une dizaine d'années que c'est signalé à Spotify et qu'on leur demande de faire le ménage. Et même peut-être de faire mieux le tri à l'entrée, on va dire. Parce que quand on voit qu'il y a plus de 200 000 titres qui sortent chaque mois et que maintenant, plus de 35% c'est de l'IA... à un moment donné, fais un petit peu quelque chose pour éviter qu'il y ait déjà autant de morceaux. Parce que moi, j'écoute.
C'est ça.
On n'écoute pas 200 000 titres par mois.
Non, ce serait
faire un peu de sélection et puis surtout sélectionner, enfin, tout de suite mettre dehors ce qui va pas, quoi.
Ouais.
Donc,
c'est comme tout. C'est à chaque nouvelle technologie, après, c'est de la responsabilité de chacun. Tu as des gens qui vont très bien l'utiliser et d'autres qui vont très mal l'utiliser. Si tu veux, c'est pour ça que je te disais, moi, j'ai pas un avis tranché vis-à-vis de l'IA. Moi, je dirais que tu vois qu'avec un bon usage, on peut faire des choses formidables, mais voilà, qu'il y aura toujours dans le lot des gens qui l'utiliseront mal pour faire, comme tu dis, faire des trucs à la chaîne, pas du tout quali, pas forcément des gens musiciens, tu vois, et que cela va causer du tort. Parce que vu qu'on est sur le sujet, moi, mon avis, c'est que moi, je perçois l'IA comme un assistant, tu vois, un peu comme une extension qu'il faut savoir guider. En fait, il doit servir notre vision artistique. Voilà, il doit pas remplacer l'humain. C'est comme s'il était un membre d'un groupe de musique, quoi. Tu vois, un membre, tout à l'heure, on parlait de mon groupe, du petit groupe de rock que j'avais au collège, voilà, c'est comme si c'était un membre du groupe. Et j'irais, tu vois, il n'y a pas que du négatif. J'irais peut-être que le point positif, c'est qu'elle peut, c'est que l'IA peut pas mal nous aider, tu vois, pour simplifier les process de composition, de production, également le mixage ou mastering, tu vois. Donc, ça peut encore plus faciliter, ça rendre plus accessible ces techniques-là, sans forcément dépenser un gros budget. Comme je dis, par exemple, pour des petits artistes, tu vois, qui n'ont pas forcément peut-être les moyens après de passer par un ingé son, tu vois, pour cette partie-là.
Donc, je te rejoins
sur cette partie-là. Ouais. Tu vois, mais comme je dis toujours, il ne remplacera pour moi jamais un ingé son. Je veux dire, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. c'est un mec, c'est un mec ou une nana mais qui a des années d'expérience, qui a des années d'expérience. Donc évidemment, qu'on a besoin.
Moi, je pense qu'il va ou qu'il peut remplacer un ingé son, qu'il peut remplacer un guitariste, un batteur, un chanteur. Il peut le faire. Hein,
ouais. Même il peut le en faire l'utilisant, en l'utilisant mal, il peut, je pense, le faire. Mais si on l'utilise bien, il peut être complémentaire.
Ok, alors oui, de toute façon, ça. Par exemple, moi, je vais pas te demander, et pour moi, et pour nous, c'est quelque chose de naturel maintenant, mais on utilise tous des VST, des DO, etc. Alors qu'à une certaine époque, il fallait qu'on soit tous réunis avec nos instruments, faut qu'on soit dans la même pièce, faut qu'on s'enregistre avec des micros,
si tu voulais un son particulier, il te fallait acheter le synthé qui te faisait ce son-là, parce que le synthé peut-être que t'avais le faisait pas, tu vois, même en.
Voilà. Alors après, les logiciels ont commencé à imiter ce matériel-là, et puis, les ayants droit de ce matériel-là qui se disaient, moi, je le vends 5000 balles, mon ampli ou mon truc, pour qu'il y ait ce son particulier et qu'il a du succès, ils ont commencé à vendre eux-mêmes les VST, quoi. Bon. Là, on va aussi avoir une nouvelle technologie qui va remplacer petit à petit des méthodes de travail. Peut-être qu'un jour, et je le vois déjà maintenant, Suno propose sur sa plateforme à elle carrément un DAW intégré dans une page web.
Une vidéo qui était là.
Fais-moi du Pumchak. Il y a un Pumchak qui arrive avec une super batterie. Alors la batterie, elle a été... elle est enregistrée comme dans un studio. Alors, moi, j'ai vu comment on enregistre avec des micros une batterie.
C'est
quelque chose, quoi. T'as déjà un micro quasiment pour chaque élément de ta batterie, micro overhead. Tu dois ensuite mixer le tout, tu dois les faire passer par différents process pour après avoir une batterie correcte. Et encore, cette batterie, elle doit être isolée du tout le reste, parce que t'imagines, t'as des bruits de batterie dans le micro du chanteur.
Tu fais ça dans le studio.
Tout ça va paraître... Moi, je fais tout dans mon petit studio avec des VST et des librairies audio, etc. Alors, ça me paraît pas archaïque de faire une batterie et de l'enregistrer. Je trouve ça encore bien. Et le jour où je me sentirais prêt à faire, par exemple, ma musique en live, je serais ultra content d'avoir un mec qui sait jouer de la batterie, un vrai humain, et qui sera sur scène avec moi et qui jouera de la batterie. Mais c'est vrai que le VST a remplacé l'usage, tu vois. Et l'usage, pour moi, d'avoir à apprendre à jouer de la batterie. Est-ce que Suno va permettre à n'importe qui de s'exprimer à travers la musique? Comme je te dis que je rentre dans le processus d'écriture de musique, moi je me pose, j'écris et je dis qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, et après j'ai juste à prendre ce texte, à le donner à Suno, et puis prendre un café. Je crois que mon café a même pas fini de couler, que la musique est déjà faite. Non mais c'est la réalité des choses, c'est triste. Voilà. Je reviens, j'écoute et je dis ok, job well done, allez, super. Est-ce que ça sera ça notre futur? Alors
peut-être que oui. Peut-être
après,
que
est-ce que ça m'empêchera de prendre après cette musique et d'aller trouver un batteur, un chanteur, un guitariste et de dire maintenant sur scène on va faire ça? Tu vois, ça m'empêchera pas, mais il y a un certain usage qui va faire que il y a des choses.
Après, tu peux demander. Par exemple, tu veux un son particulier. En fait, tu essaies de faire du sound design, t'arrives pas à avoir le son que tu veux. Tu veux un truc vraiment particulier. Là, tu peux peut-être solliciter l'IA comme assistant, en lui disant j'essaie de faire un tel son si cela, mais je n'arrive pas, donc essaie de me faire si ça, voilà, en lui donnant les infos. Donc en soi, l'idée vient de toi, mais après c'est la façon dont lui il va procéder. Est-ce que il va procéder de manière complètement indépendante, ou alors est-ce qu'il va justement piocher dans les bases de données pour s'inspirer des autres trucs? C'est là justement, je pense, que les choses vont peut-être évoluer et être encadrées par rapport à ça. Tu vois, c'est comme pour le chant. Aujourd'hui, tu prends par exemple des petits artistes, admettons, ils veulent faire une collab, ils veulent prendre quelqu'un qui fait du chant, c'est cela, où ils essuient les refus à chaque fois. Et au bout d'un moment, ils vont se dire écoute, moi je vais utiliser l'IA pour chanter par-dessus. Ou alors moi qui ne. Ou alors, enfin, pas moi à titre perso, moi dans le sens la personne qui se dit moi. je ne sais pas chanter ou je chante mal, ben je pose ma voix, je demande à l'IA de retravailler mon timbre vocal, voire même de cloner ma voix, et ensuite je lui dis ben voilà, à partir de ce que j'ai écrit, tu me fais chanter ça en suivant la top line que je t'ai donnée, quoi, tu vois. Donc à partir de là, ben tu utilises l'IA comme un outil, comme un instrument même. Et ben il y a un exemple, c'est, je sais pas si tu connais l'artiste De Laurentiis, justement. Elle fait un peu ça, tu vois. Justement, elle aime bien, elle fait de la performance live, et elle aime bien utiliser justement ces nouvelles technologies au service de sa vision artistique. Et au final, ben en fait, elle utilise l'IA un peu comme un instrument, voilà, comme une extension, comme un assistant dans son process créatif. Mais c'est elle qui fait quasiment tout le.
Espérons que tout le monde fait comme ça, voilà. Ouais. Parce que
bah, elle a fait une démo, elle a fait une démo où elle enregistre sa voix pour et tout. Et en fait, avec l'outil IA, eh ben l'IA va modifier sa voix, donc lui donner un timbre plus masculin, par exemple. Tu vois, ensuite elle en fait une boucle, elle le sample, elle l'intègre dans le truc. Enfin voilà quoi. C'est donc moi je dirais, je suis un peu aussi dans cette vision-là. Je dirais, pour moi, je considérerais que ouais, l'IA serait comme un outil. Pour approfondir un peu élargir le process créatif, en l'utilisant bien, bien évidemment, tu vois.
Moi, ce que je pense aussi, c'est, alors j'ai un usage déjà de la musique un peu algorithmique. Oui. J'utilise une application qui s'appelle BrainFM qui génère de la musique pour me concentrer, en fait. Donc je mets ça dans mon casque et quand je travaille, j'utilise ça. Alors pas quand je travaille la musique, mais quand je travaille autre chose, ou quand j'ai envie de me concentrer. Et c'est une application qui permet de... elle promet d'utiliser des algorithmes et des IA pour générer de la musique. Mais en fait, elle n'utilise pas d'IA, puisqu'elle existe depuis plus de 10 ans. Et puis, ça n'existait pas il y a 10 ans. Mais en fait, elle a des espèces de loops de une heure de musique qui sont composées. Et par-dessus, elle va mettre des espèces de fréquences. Elle va aussi utiliser du binaural pour positionner la musique plus devant, plus derrière, plus sur les côtés, etc. Pour créer une bulle dans laquelle elle va te dire, OK, tu vas te concentrer sur ce qui est devant toi. Et en faisant ça, en mettant de la musique qui te permet de te concentrer, qui te permet pas trop non plus de y a pas de paroles dedans et des choses comme ça, voilà. Ben, l'idée, c'est que tu vas te concentrer dessus. Alors, j'utilisais déjà ça, et c'est vrai que en faisant ça, ben, j'écoute pas d'artistes. J'écoute pas ces chaînes YouTube en boucle avec Chillop et compagnie, hein, voilà. Ça, c'était pas mon truc, mais j'utilisais cette appli à la place. Et donc, elle, ben, je pense pas qu'elle rémunère un artiste en question. Elle va rémunérer BrainFM qui a généré cette musique, etc. Donc voilà. Et moi, je trouve ça bien parce que, en fait, t'écoutes ça et puis t'entends pas toujours la même chose. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques mois, tu te rends compte que c'est la même chose. Bah, j'imagine que ce genre d'application, ou en tout cas cette application, je pense très bientôt, elle va nous dire, ah bah maintenant, on génère ça avec Suno, quoi. Donc tous les jours, t'auras une autre musique, quoi. Tous les jours, tu auras une autre musique spécifique concentration dans les termes qu'ils veulent, etc., sans avoir besoin de se soucier de payer un artiste, etc. Et ça, si tout le monde commence à utiliser ce genre de plateforme, peut-être qu'un jour Spotify va dire, bah nous, on a tellement de procès avec les artistes, avec les gouvernements qui veulent qu'on soutienne les artistes, avec les gars qui nous disent où investir notre argent et surtout pas dans les armements, machin. Nous on va arrêter avec les artistes et puis maintenant on va tout générer par Suno, voilà, et puis ciao, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Bon, ils vont pas faire ça d'un coup parce que tout le monde va se barrer, hein, ils vont se dire c'est quoi ce délire, moi je vais écouter
ils mettent à mal leur modèle, ouais. Leur business model, quoi.
Voilà. Mais l'idée, c'est que ils vont, à mon avis, à un moment donné, ils vont proposer ça. Je sais qu'ils proposent déjà des mix DJ aussi, où tu sais, ils ont un peu appris avec différents logiciels de DJing.
Il y a l'exemple Apple.
Ils ont appris
Apple
comment
Music,
les gens, ils ont acheté des banques d'apprentissage de comment mixer des tracks entre elles. Et elles ont intégré ça dans leur algorithme de DJ automatique, quoi. Ça. Donc, pour remplacer un peu le DJ.
tu regardes, je sais pas si t'as vu la vidéo démo de Apple Music avec le mode DJ, tu vois, automatique.
Oui.
C'est quand même, ça surprend quand même.
Spotify le fait aussi, hein. Spotify le alors, fait.
Je savais que Spotify faisait des fondus, mais j'avais pas trop.
Alors, pas que le fondu, elle fait un mode DJ. Elle fait vraiment un mode DJ. Voilà.
D'accord.
Donc, moi, je le sais. Des fois, j'ai des écoutes. Quand j'ai des écoutes Spotify, il y a écrit des fois la source. Mmh. Il y a écrit playlist, etc. Et il y a écrit aussi mode DJ. Donc, des fois, le mode DJ pousse ma musique aussi, etc. Bon, bref. Mais il y a un mode DJ aussi dans Spotify. Mais ils vont, à mon avis, il va, je pense qu'il y aura des chaînes YouTube style Chillop et compagnie avec la musique entièrement générée, quoi.
Je veux dire, y a déjà,
je pense que c'est déjà le cas.
Il y a déjà une chaîne YouTube française dont j'ai plus le nom, et eux, ils imaginent justement les musiques les plus connues dans un autre style, dans une autre époque. Ouais. Du genre, là, récemment, j'ai entendu... Et si début de soirée là Nuit de folie était sorti je crois en 2020 sous un style EDM, tu vois, ben en fait quand t'écoutes le résultat ça a rien à voir, quoi. Je veux dire, c'est
oui, ou
c'est
Prodigy en version version années 20 ou des choses comme ça.
Ouais, voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est tu vois ça, tu te dis ah ouais quand même le mec.
Ouais, alors ça, c'est effectivement bon, ça rentre dans le cadre du remix, hein, donc de toute manière les mecs ils ont pas grand chose à y gagner.
Non, bah justement.
Ils vont se faire striker très vite, ou les ayants droit vont revenir très vite vers eux.
Je pense que c'est plus pour du divertissement, dire, là.
C'est plutôt les chaînes, tu sais, qui avec de l'écoute en continu, où des millions d'écoutes par semaine, voire 10 000 personnes connectées dans un live en même temps. Et imagine qu'ils se disent, ouais, mais moi, je peux pas passer la musique que je veux parce que sinon, je me fais striker.
Ouais,
ben, au lieu de ça, ben, comme tu l'as dit, hein, toi-même dans MWT Room, nous-mêmes dans MWT Room, quand on passe nos DJ mix, avec vous qui mixez, hein, ben, on les place une semaine avant en mode privé sur YouTube pour voir si YouTube nous les strike, tu vois.
Ouais.
Alors, ben, après, nous, on s'en fout, on cherche pas la monétisation. On ne marche qu'avec les dons, bien entendu. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur musicwetrust.com et puis vous trouverez tout ce qu'il faut là-bas pour nous soutenir. Mais l'idée, c'est on est déjà mis à mal quand tu mixes. Tu seras mis à mal si tu interprètes ou tu réinterprètes un artiste connu. Donc, le plus facile, c'est exactement comme la musique que les magasins passent, qu'ils achètent eux-mêmes, à faire de la musique entièrement générée. Et
quand
le gars, il écoute un stream en continu, et ça sera jamais le même morceau, tu vois.
Bah, c'est ça. Folie, quoi. C'est ça, quand tu parlais YouTube, strike. Et encore, je trouve que YouTube, encore, ça va, ils sont assez permissifs. Ils t'avertissent, qu'il y a des droits d'auteur sans pour autant, enfin, moi, j'ai rarement eu.
Alors, moi, le content ID de YouTube, c'est le plus performant.
Ouais. Et tu vois,
et en fait, il te strike très vite. Il te strike très vite. Et en fait, il notifie l'ayant droit. Et en fait, le risque, c'est pas que, ok, de toute façon, il sait que tu vas avoir mis la musique de quelqu'un d'autre, il te l'aura reconnu, il te l'aura striké, il aura notifié l'ayant droit, et il va te la laisser tant que l'ayant droit, il dit pas de
partir. Voilà.
Et en fait, le risque, c'est que nous, on publie une vidéo, l'ayant droit est notifié, elle passe, elle fait un petit succès. Imagine les 400 000 vues de ta vidéo avec le générique de jeux vidéo. Ben, l'ayant droit, au bout de 3 semaines, alors que tu as déjà 200 000 vues, il décide de la faire tomber, parce qu'il a le droit de la faire tomber. Mmh. Ben, toi, ton succès, il tombe aussi, tu vois. Il tombe,
c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important dans la partie, tu sais, descriptive de ta vidéo, en public, toujours. Toujours mettre la mention n'est pas monétisé, tu vois, vraiment, comme ça, c'est au cas où ils voient le truc, ils voient, bon, ben voilà quoi. De toute façon, je pense qu'ils s'en rendent compte. Mais tu parlais des strikes, c'est vrai que YouTube, au-delà de ce que tu expliques par rapport à ça, au Content ID, je trouve qu'ils restent quand même assez permissifs, tu vois, SoundCloud. Par contre, eux, je les trouve un peu bêtes et disciplinés, c'est-à-dire ils cherchent pas trop à... L'algo, oui, il cherche pas trop à comprendre. C'est-à-dire que ça peut poser problème parce que quand tu as, par exemple, des gens qui veulent faire des DJ contests, on leur dit, oui, bah, mais publiez votre mix sur SoundCloud, nanani, nanana. Bah, tu publies le mix, mais en fait, le mix, il peut être strike, quoi. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une alternative qui est MixCloud, qui est uniquement dédiée pour ça. Justement.
D'accord.
Par rapport à ça. Donc, même SoundCloud, aujourd'hui encore, il a un peu des, voilà. Et puis, le comble, c'est si c'est toi qui publie ta propre musique et SoundCloud te le strike, quoi. Je veux dire, t'as envie de lui dire, mais attends, c'est mon propre track, je t'ai montré les preuves et tu m'auto-strike, quoi. Enfin, tu... Donc, c'est pour ça que même si c'est une plateforme énormément utilisée, moi perso, je dirais que SoundCloud, les gars, essayez de revoir un peu votre algorithme et je sais pas, trouver une nouvelle façon de gérer votre plateforme, quoi.
Alors oui, après SoundCloud avant c'était le paradis hein, pour les remix.
Ah oui, ou avant.
Choses comme ça. Mais ils se sont fait rattraper par les majors, hein, comme oui. YouTube, comme Spotify, enfin comme tout le monde, quoi. Donc tu peux plus faire ce que tu veux et ça c'était couru d'avance. Voilà. Maintenant effectivement, j'ai l'impression. Alors l'exemple que je peux te donner sur SoundCloud, c'est que je mets ma propre musique, elle se fait striker parce qu'ils disent que c'est ma musique à moi. Tu vois.
Ouais.
Parce que en fait, moi je publie ma musique d'abord via mon distributeur. Et juste avant que, tu vois, je le fais 15 jours avant, et juste avant le jour de la sortie, ben, je vais sur SoundCloud et je dis, bon, maintenant, on prend ma musique. Et puis, mais entre-temps, SoundCloud est déjà, enfin, en fait, il a les mêmes bases de données que les autres distributeurs, je pense. Ils utilisent peut-être même le Content ID de YouTube. Hein. Donc, ils sont déjà au fait de ma musique. Et comme je la publie après, ben, ils vont se dire, ah, allez, copyright, c'est PKMWT. Et je suis obligé de mettre un commentaire. C'est moi, PKMWT, les amis.
c'est
et j'ai pas de réponse à. Ouais, c'est bah, pas, au bout de 20 minutes, c'est bon. Bah, c'est...
Non, mais c'est à se demander si SoundCloud te pousserait pas à prendre leur abonnement, tu vois, leur abonnement pour de distribution, tu vois, tu presque.
Ah, peut-être.
ouais, ce serait pas une forme de concurrence.
vu leur prix et le nombre de plateformes sur lesquelles elles distribuent, franchement. Qu'elle aille se rhabiller, hein, ça serait peut-être mieux parce que je crois qu'elle distribue sur 5 ou 6 plateformes au lieu des 150 habituelles.
que proposent les autres distributeurs, ouais, c'est sûr.
Ouais, sans parler des options un peu cachées, genre sur Spotify, bah,
sans compter qu'en plus, si tu publies ton track avant la publication sur ton distributeur, sur SoundCloud, ça va passer parce qu'il n'aura pas le truc, mais tu seras pénalisé si tu veux le promote sur la plateforme SoundCloud, tu vois, pour le mettre en avant. Parce que justement, SoundCloud, il te donne 7 jours à la date de publication de ton son pour le booster.
Mmh. Ouais.
Donc, c'est dur. Ouais, bon, après, c'est un modèle, je pense, discutable, quoi.
Ouais, je suis pas fan de SoundCloud parce que, un quart des gens qui sont sur SoundCloud, c'est d'autres producteurs, en fait.
Ouais. Voilà. Ouais, mais des fois tu fais de bonnes découvertes, hein. Des fois tu découvres des remixes ou même des mashups qui franchement tu te dis ah ouais, pas mal quand même.
Ouais.
Donc non, ça peut être aussi une bonne.
Bah, pour un DJ, c'est une belle plateforme. Voilà.
Ouais.
Admettons. Donc en plus, je crois que tu peux sur les logiciels de DJing, hein, genre.
Il me semble.
Tu peux accrocher SoundCloud
les contrôleurs, ouais, avec des certains contrôleurs. Je sais que ils le font. Apple Music et Beatport, justement.
Ouais. Et SoundCloud.
SoundCloud, peut-être, ouais.
J'avais testé ça, justement. En fait, je voulais passer à l'abonnement un peu pro. Mmh. Non, pas l'abonnement pro, l'abonnement Go de SoundCloud, qui te permet de faire du streaming légal de musique sous copyright, quoi, en gros. Et ça te permet aussi d'avoir cette fonctionnalité de pouvoir le passer en mode DJ avec SoundCloud.
Mmh.
Et c'est nul parce que ta bibliothèque elle est pas complète, hein. SoundCloud n'a pas tout et les qualités sont pas top, quoi. Donc voilà.
Ah bah.
Toi tu utilises quoi sur ta platine? Tu utilises du service de streaming ou tu fais du MP3?
Non, pas du tout. Non, j'utilise ma clé USB actuellement. Alors je travaille avec alors actuellement mon setup c'est Denon. Donc Denon, eux travaillent, utilisent le logiciel Engine DJ. Bien que les platines Denon sont compatibles avec les librairies Recordbox, mais c'est pas, ça marche bien, mais des fois c'est pas trop optimal. Donc et puis également j'utilise Recordbox, pour que je puisse connecter mes clés sur les standards de l'industrie. Et parce que également j'ai un petit contrôleur FLX4 de Pioneer pour le côté un peu mobilité, quoi, tu vois, si j'ai envie de faire un petit mix chill en extérieur, des trucs comme ça. Donc Donc voilà. Donc actuellement,
c'est important d'avoir ta base de données précalculée par.
Ouais. Surtout ça. Puis en plus, en ce mois-ci, comme tu le sais, j'ai une première date à. Pour un festival du côté de Bordeaux et donc les gars ils sont en pionneur quoi. Quand j'ai posé la question aux orgas, je leur ai dit bon ça va être quoi le setup pionneur, tu vois, que je puisse si tu veux dans mes sets. Moi j'aime faire aussi un peu du live mashup, donc mais le plus souvent c'est que je le fais quand je suis en 3 ou 4 platines, et avec mes 2 platines Denon je peux mixer comme si j'en avais 4, tu vois, parce que j'ai le double layer, j'ai layer A à B. Donc ça tombe bien. Et quand ils m'ont dit le modèle, je dis bon ben là je vais être juste en 2 platines, donc bon ben là va falloir que je m'adapte. Voilà, que du coup on va essayer de travailler plus les enchaînements sous forme de mashup.
Ok, donc concept pour le 1er avril, on fait DJ contest sur Virtual DJ avec des platines Hercule. On va voir qui tombe dans le panneau. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah j'adore.
Ah tu serais là toi, tu serais présent.
Mais franchement. Allez. Ah mais moi franchement ce genre de
délire, mais en plus on le fait vraiment et alors tu sais c'est la blague hein, tout le monde doit se dire 1er avril, mais en fait attendez, tu le fais
les gars,
et tu regardes comment ils se débrouillent quoi. Ça peut être sympa.
Attendez, moi je vais vous proposer encore mieux. Je propose encore mieux. Soyez témoin. Tu sais, pour reprendre la phrase de l'autre dans Mad Max dans Fury Road. Soyez témoin. Je te propose, on pousse le concept encore plus loin, c'est-à-dire qu'après le virtuel DJ, on met 2 platines CD, on mixe en CD, mais sans les BPM et sans de master tempo.
Ah oui, mais tu triches, toi, tu sais le faire. Voilà,
bon, Je demande. Ah, attends, ça va être fun. Ah, par contre, non, moi, je suis honnête, tu me mets sur des platines vinyles, j'arriverai pas. Ouais. Je veux dire, parce que bon, j'ai pas eu l'occasion de travailler, de m'entraîner sur un setup comme ça. Mais.
J'avais commencé en vinyle, on m'avait appris sur vinyle, j'ai vu le boulot que c'était et j'ai commencé mes premières armes sur des platines Hercule avec Virtual DJ justement.
Ouais,
mais c'était à l'époque où, en fait j'avais aucune prétention à faire DJ, c'était juste que en fait j'avais mon collègue qui faisait ça en boîte de nuit, les vinyles etc, et je lui disais ah bah en fait t'as maintenant ça, tu peux acheter ça pour 50 balles, tu mets ça à ton PC en USB, t'as ton petit logiciel craqué très certainement, j'achetais pas mes logiciels à l'époque et j'avais mes MP3 et puis je commençais à faire des enchaînements. Alors là le bouton sync, je crois qu'il se désactivait même pas le bouton. Tu vois ce que je veux dire, c'était vraiment le truc de fête foraine, laisse tomber. Ouais. Et putain, et ça mixait bien, et tu pouvais même mettre ta playlist, et je crois que tu peux le faire maintenant dans tu fais ta playlist, tu fais play et il te fait tout seul quoi.
Mais tu sais que Virtual DJ, bon, il y a des gens qui rigolent un peu de ce logiciel. Moi, je le trouve assez amusant, ce soft. Même moi, fut un temps, je continuais un peu de l'utiliser en perso dans mon home studio pour des fois, quand je voulais m'éviter d'allumer tout le setup pour tester des enchaînements, des trucs et tout, je lançais Virtual DJ et je faisais, tu vois, donc c'est... Et juste pour tester des enchaînements ou des idées, tu vois, si des fois j'avais la flemme d'allumer tout le setup quoi, voilà, et avant que j'ai mon petit contrôleur mon petit contrôleur USB quoi pour maintenant avec le contrôleur je teste avec Recordbox.
Je viens d'exhumer un autre truc, ça sera peut-être le mot de la fin. C'est dommage que ça te soit, mais en fait avant Virtual DJ j'utilisais Atomix MP3.
Oh oui, Atomix oui,
MP3 avec une interface à la Winamp
Et d'ailleurs, je crois que Virtual DJ ça vient de Atomix.
Mais il me semblait aussi, c'est pour ça que tu dis attends, c'était pas Atomix DJ avant. Mais je veux pas dire de bêtises parce que il y a atomixmp3.fr. Ah non, ouais. Non, c'est, je crois que c'est un site un petit peu d'abandonware quoi, ouais. qui te le propose encore si tu veux. Alors il doit être criblé de virus le machin, donc je le conseille pas. Ah, il y a un atomixdj.be. Oula.
Ouais, non mais je crois que Atomix c'était l'éditeur de Virtual, ou c'est peut-être toujours l'éditeur de Virtual quoi, tu vois.
Attends, c'est Virtual DJ Atomix Production.
Ah bah donc voilà, on est fixé. Donc à la base
Atomix
DJ qui a évolué en Virtual DJ. Les premiers packs Virtual DJ, console Hercule comme tu disais quoi.
Sachant qu'en plus,
petite parenthèse, mais sur les contrôleurs, c'était, il me semble que c'était Hercule les précurseurs, ou
Oui, parce qu'en fait, à l'époque, tout le monde ne jurait que par des CDJ ou des platines CD ou des platines vinyles, etc. Vinyle. Hein, les pionniers et
compagnie. Les CDJ ou les Technics, ouais. C'est...
ouais. Technics, bien entendu. Et bien sûr, le mix par MP3, mais moi j'ai, encore quand je disais, allez, j'avais pas de prétention. En fait, ça, c'est pas un truc, tu pouvais pas emmener ça sur scène, quoi. Moi, il y avait un des premiers trucs qui m'avait choqué parce que je sortais, je faisais beaucoup de boîtes de nuit, je faisais beaucoup de rave party, etc. Ça m'avait, alors avec le recul, je m'en veux un peu, mais écoute, ça m'avait choqué quand un DJ, et c'était Martin Solveig, que j'avais vu en live, ça m'avait choqué qu'il arrive avec son 4x4, sa pochette 4x4 de CD, et qu'il l'ouvre. donc tu vois là, c'est pas la petite pochette que t'as dans la voiture, c'était la grosse, tu vois. Et il ouvre ça, et tu voyais très clairement que c'était pas du tout des vinyles originaux, des CD originaux, c'était que des CD blancs, tout ça dedans. Donc des trucs gravés.
On l'a tous fait. Hein.
Voilà. Et il mixait avec ça. Et quand j'ai vu ça, alors que moi je mixais déjà avec du MP3, etc., mais que c'était pas encore, voilà, j'ai vu ça, j'ai fait non mais. Ça peut pas être un bon DJ. Je m'en veux avec le recul, hein, bien sûr. Parce que maintenant, effectivement, déjà, rien que le MP3, c'est ultra pratique. Et c'est pas parce que c'est du MP3 que c'est de la mauvaise qualité. Tu peux avoir bien sûr du FLAC et de la très bonne qualité derrière. Les DJ sont maintenant rémunérés proprement parce que c'est pas juste du ripping, mais tu peux effectivement mettre tes bases de données Apple Music, SoundCloud, surtout. Voilà, tu peux même acheter sur Bandcamp, etc. Quoi.
Ça va même plus loin, puisque tu vois, on parle de DJ, on parlait d'IA, il y a une liaison entre ces deux univers, c'est-à-dire que même maintenant, tu vas avoir des IA qui vont te suggérer quel track passer pendant une soirée, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc, tout évolue, quoi.
Ou sinon, il y a des super playlists que je fais sur Spotify. Voilà.
Aussi.
Ah, j'ai fait quelques playlists. Tu fais de la playlist, toi, un peu ?
Juste en privé pour moi quand je suis en recherche de d'idées de sons pas pour la prod mais pour construire des DJ sets. Donc j'écoute des trucs et du coup je me fais les playlists et je me réécoute plusieurs trucs. Donc j'ai des playlists sous SoundCloud, sous Beatport, même YouTube. Donc en privé. Voilà, pour essayer d'écouter et de dire « Ah, ça peut être pas mal. »
Très bien. Bah écoute, merci Alex Heider pour toute cette grosse discussion qu'on a eue qui n'était pas évidente sur l'IA et puis tes astuces aussi sur composition et puis on a pu en apprendre plus sur ton parcours, c'était chouette. J'aimerais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'interweb Minitel, tout ça.
Alors 3615 Alex Heider pour le Minitel, voilà, c'est
trop long Alex Heider, c'est pas possible.
c'est pas possible. Vous êtes limité à temps de non,
c'est 8 caractères je crois.
C'est ça, ouais. Alors plus sérieusement, en fait, on peut me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc TikTok, donc Instagram, TikTok, puis YouTube et SoundCloud via Alex Heider. Alors, sauf Instagram, où c'est Alex Heider Music, parce qu'en fait, malheureusement, Alex Heider tout seul était déri. Mais sinon, sur TikTok, SoundCloud et YouTube, on tape Alex Heider, A-L-E-K-S-E-I-D-E-R, et on me trouve. Voilà. Particularité également dans mon nom d'artiste, pourquoi E-I et pas plus simple.
Personne me pose la question pour PKMWT. De toute façon, les gens savent même pas le prononcer. Donc voilà.
Si tu veux, vite fait. Pour Alex Heider, c'est juste que j'ai voulu faire original parce qu'à la base, c'était Alexander. Donc c'était en fait mon prénom Alexandre, mais plus anglicisé, quoi, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que Alexander existait déjà. Il y avait déjà un DJ qui se faisait appeler Alex Ander, tu vois. Donc, moi, je voulais pas trop qu'il y ait de confusion. Donc, du coup, j'ai réfléchi. Donc, j'ai remplacé le X par KS pour faire le XE et le AN par EI pour faire, Alex Heider, tu vois. Donc,
C'est cool.
Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais adopter ce nom d'artiste là. Là, quoi, parce que je garde un peu mon identité, voilà.
Ouais. Bah, n'hésitez pas à aller visiter ces réseaux sur l'interweb. Et en attendant, Music We Trust, vous pouvez nous retrouver aussi sur, sur Internet, musicwetrust.com, où vous trouverez tout ce qu'il faut pour écouter ce podcast. Pour moi, vous pouvez aussi me retrouver sur toutes les plateformes, PKMWT, sur Instagram, sur YouTube, et sinon MWTprod.com pour avoir tous les détails sur mes projets. Voilà, si l'épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous, mettez des pouces, mettez des étoiles, mettez des commentaires, n'hésitez pas. Si quelque chose vous a choqué, n'hésitez pas à nous écrire. On se retrouve dans un mois pour un nouvel échange, une nouvelle voix peut-être, quelqu'un, un nouvel invité, mais toujours la même envie, parler de musique.